Ben bonjour à tutti et va qui l'émission de l'association Ben Léo, à ce ben par là
Maï de Casdi.
Alors, Chantal et Annie, oui, des canins, une émission un peu spéciale, où il crée qu'il n'y aura pas des gaubis.
Non, on n'aime pas thème, parce qu'on aime par là des camisards.
Oh, les camisards.
Les camisards sévenaux.
Ah, les camisards sévenaux.
On aime veille qu'entre 1712 et 1704, 12 000 camisards sévenaux ont testé à 30 000 soldats d'oreilles.
Donc c'est en 1702, enfin entre 1702 et 1704, 2000 camisards sévenols vont tenir tête à 30 000 soldats du roi.
Alors, on m'avait dit, donc, que quelqu'un bizarre, on a qui. Et donc, que te sont fin final, quelqu'un bizarre, parce qu'il m'avait dit des camisards.
À l'origine, ce sont des protestants sévénaux, des jeunes paysans, pour la majeure part, pas mal des 12 000 personnes, des que quelques dizaines de femmes. Se sont rebellés pour 12 raisons principales. Protesta contre une répression des Mayamas et crudelle, obtenir la liberté des cultes et des consciences. Et justement, qu'elle dit, on bénéficie de la complicité de la majeure part de la population protestante qu'elle lise à part.
Et c'est qu'il y a camisard porté une camise.
Le mot camise qui veut dire en provençal la chemise.
Voilà, et cette camise, ça va devenir un signe de reconnaissance pendant les combats.
Mais comme ils eront armés, ils viennent des armes.
Et vous, quelques-unes, quelques pistolets, quelques fusils, quelques mousquets, robes des catholiques, oppressent sur les camps de bataille, fabriquant les balles et la poudre, en d'espaces, en des pugnaux, en des bastons ferrats, en des frondes.
En des frondes,
D'outils agricoles transformés en alabardes.
Ils se débrouillent comme ils peuvent avec les armes qu'ils trouvent et qu'ils fabriquent.
Mais ils montent, est-ce la guerre? Ils montent, c'est des bannes à quelle guerre? Finalement, ils ne verrent à dire guerre.
Voir que se débanne au pied du mont Lozère. Se généralise à l'incendie Cévennes et à la région des Garrigues.
Henri IV avait signé l'édit de Nantes et accordé la liberté de culte aux protestants. Et il avait mis fin à 40 années de guerre de religion et d'horribles massacres. Donc c'est 1598.
Eh bien, pas même du siècle après, c'est-à-dire 1685, Louis le XIV révoque quel édit de Nantes. Et donc impose le catholicisme comme religion unique d'Orient. Une répression terrible tombe sur les protestants du Languedoc, mais la grande dragonnade. Les calvinistes sont obligés d'adjurer collectivement le protestantisme et d'assister régulièrement à la messe sous peine d'amende lourde, pessugue. Les temples sont rasés, les pasteurs sont forçats de quitter le royaume, mais le reste de la population a interdiction d'émigrer, ennemi d'émigrer.
Donc de 1685 à 1702, soit combien d'années ? 10 ans environ. Malgré cette répression, de nombreux Huguenots émigrent, hein, alors qu'ils n'avaient pas le droit. Hein. Et ils vont se réfugier dans les pays qui s'appellent le refuge, qui sont les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Irlande, l'Allemagne, la Suisse. Voilà, donc pays d'accueil appelés refuge. Et pour ceux qui restent, et ça coûte cher hein, de rester.
Ça coûte cher d'émigrer.
Voilà, c'est pour ça qu'ils restent, parce que ça coûte cher.
Oui, oui.
Et parce que certains. Enfin, ce sont des paysans, donc ils ont leur propriété, ils sont attachés. Ils vont faire semblant d'être catholiques. Et ils vont cacher dans leur maison des recueils de psaumes, des ouvrages religieux, la Bible. Voilà, dans les Cévennes, on trouve beaucoup de caches. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils se réunissent clandestinement et pacifiquement dans les endroits inhabités. Ces endroits sont appelés les déserts. Le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait de son côté entre 1685 et 1702 ? Il encourage les curés à dénoncer les protestants suspects. Et il oblige les plus aisés à former des milices. De plus, on a les dragons du roi qui font des prisonniers, qui torturent, qui tuent. Les hommes sont envoyés aux galères, les enfants sont envoyés dans des couvents, les femmes sont emprisonnées. C'est le départ de la guerre des Camisards. Donc les protestants ont interdiction de fuir à l'étranger, on l'a dit tout à l'heure. Pourtant, à l'été 1702, 6 jeunes gens cherchent à gagner la Suisse. Malheureusement, ils sont arrêtés par l'abbé Chéla dans le village de Pont-de-Mevers, c'est en Lozère. Et cet abbé avait été chargé depuis 1686, de contraindre les nouveaux convertis à devenir d'authentiques catholiques. Et donc cet abbé cristallisait déjà la haine de nombreux Cévenols, car il était responsable de nombreuses condamnations à la prison, de nombreuses condamnations aux galères ou à la mort.
Et donc il ne faisait qu'obéir aux ordres du roi. Hein. Et donc, 24 d'avous 1712, une école des protestants libère les jouvins et tue l'abbé là-bas des 52 corps de Pugnau, à cause du Samen Lodi. Hein.
Oui.
C'est le début de la guerre des Camisards, c'est une révolte religieuse, rurale, paysanne et populaire. C'est une guerre crudelle. Les nafras sont accabats sur les camps de bataille. Les ouvriers lidés des femmes sont coupés. Les glaises sont crémades. Et puis, justement, le grand cramamen des Cévennes, qui est incendié systématique de septembre à décembre 1713, des oustaux des nautes Cévennes, par les troupes royales de Louis le XIV.
Et pour faire face à ces rebelles, Louis XIV compte sur 30 000 hommes.
30 000 ?
Voilà, 30 000 hommes pour mater les révoltés. Et ces 30 000 hommes, ce sont des soldats. De plus, il peut compter sur des bandes de catholiques qui se livrent à des exactions contre les paroisses protestantes. Ce sont les Camisards blancs, ou appelés aussi les cadets de la croix, ou les Florentins. Donc, il y a 10 proportions entre les deux camps. Ouais. 2000 Camisards,
30 000.
Plus de 30 000 hommes du roi. La guerre a donc démarré en août 1702 et la période la plus active sera le printemps 1704. Le 14 mars 1704, c'est la plus grande victoire qui est celle de Martignargues, c'est dans le Gard. Et là, les camisards attirent les royaux dans un traquenard. Ils mettent en fuite des régiments de marine considérés comme un corps d'élite. Ce sont 300 soldats royaux et une vingtaine d'officiers français qui meurent.
Et toujours la même année, le 16 d'abril 1704, les camisards sont des femmes, malheureusement, à l'ouest des Nîmes. C'est une bataille menée, bailejade par Jean Cavalier, qui avait gagné à Martignargues, ce qu'il avait fait craindre à son invincibilité. Jean Cavalier et ses hommes se prennent dans une lèque, sont encerclés et décimés complètement en chaplat. Cavalier ne rescape miraculeusement. À quel desfatch marque la fin de la guerre des camisards dans sa phase maille active.
Voilà, donc on a dit que la phase la plus active, c'est le printemps 1704. Et le 16 mai, donc un mois après cette défaite des camisards à l'ouest de Nîmes, le 16 mai, le maréchal de Villars, qui est donc français, contacte Jean Cavalier pour mettre fin à la révolte et mettre fin à la révolte diplomatiquement. Le chef camisard, Jean Cavalier, accepte de le rencontrer et de négocier. Mais il n'a pas l'expérience de la négociation. Il pense que ce sera facile. Et Villars va lui faire des promesses verbales. Et Cavalier, notre camisard, va y croire. Voilà. Il va croire aux amnisties, aux révoltés. Il va croire à la libération des galériens et des prisonniers. Il va croire qu'on ne les forcera plus à assister à la messe, etc. Et comme Cavalier signe un accord, eh ben la division va s'installer au sein des camisards. Il y a ceux qui suivent Cavalier et ceux comme Roland et Abraham Mazel qui veulent poursuivre le combat. Et du coup, cette division va affaiblir la révolte. Roland va tenter de prolonger la guerre, mais il est tué dans un traquenard le 13 août 1704. Guerre des camisards, donc en automne 1704, eh ben la plupart des camisards rendent leurs armes et puis d'autres s'exilent dans les pays protestants.
Et donc c'est à 13 tentatives, 1705, 1709 amè Abraham Mazel, 1710, mai en tutte mau capita.
Mais comment faire pour aquelle camisard per tenir tant longtemps comme accord, parce qu'il y a tenu longtemps.
Ils n'eront pas nombreux,
12 000 camisards contre 30 000 soldats.
Ils n'eront
pas nombreux, alors comment faire?
Eh bien, vient une force bonne connaissance d'Auterin, c'est-à-dire l'Aurélien de la montagne Sévenol, les accidentats, donc le connaissien, et il y a des baumes force nombreuses dans les Cévennes. La végétation de la garrigue est dense.
Et il faut voir aussi que ce sont des jeunes et qu'ils sont très bons marcheurs. Et donc, c'est une guerre où ils sont extraordinairement mobiles.
Des mailles sont fines. Par exemple, portant des bastons sur ses espalles, parce que les soldats rouillaient, les masques de lion avaient des fusils, ou encore font des bruits pour faire craindre que sont nombreux.
Oui. Et puis ils affirment aussi ne pas craindre la mort. Ils défendent une cause, des principes, un idéal. Et en fait, en face, les soldats du roi de France, ce sont des professionnels de la guerre. C'est pas pareil. Et par exemple, quand les ennemis se rapprochent à quelques dizaines de mètres, eh ben, les camisards entonnent en pleine voix le psaume des batailles. Et on raconte qu'à plusieurs reprises, des unités royales se seraient débandées au seul chant de ce psaume.
Alors, franchement, à quel camisard en pleine de bonne volonté.
Moi, ça me fait penser aux équipes de rugby qui font peur quand ils chantent juste avant.
Et comment procède au final? Comment font au final, Chantal?
Eh bien, ils sont départis en bande sur un territoire qui est source large, c'est-à-dire de la plaine à la montagne. Et les bandes sont maille ou main autonomes. Et se font une dizaine à une centaine de personnes, cas de quoi. Les capes sont, pour la majeure part, prophètes, c'est-à-dire aquelles qui transmettent la parole de Dieu, et des coquillages, les camisards, récampent ses forces et mobilisent plus d'un millier d'hommes, bravant alors front à la main les régiments royaux, qui sont plus nombreux qu'elles.
Et alors, les grands capouliers, les grands chefs, comme c'est dit en français, les grands capouliers, que t'es sous?
Il y avait, par exemple, Père Laporte, qui a reçu prénommant Roulant, qui est mort, les armes à la main, en 1704, à 24 ans.
Il y a Jean Cavalier, dont on a parlé tout à l'heure, il a un an de moins que Roland. Il est berger, et puis il devient à 21 ans le chef de guerre charismatique. Sa plus grande victoire, on en a parlé, c'est celle de Martignargues, dans le Gard, en 1704, au printemps. Il a accepté de négocier avec le pouvoir et son image, du coup, en sera ternie. Et plusieurs de ses anciens compagnons vont l'accuser de trahir la cause camisarde. Pourtant, Jean Cavalier va combattre Louis XIV à partir d'août 1704, donc très vite, et il va s'enrôler dans les armées anglo-hollandaises. Donc il va se battre contre Louis XIV et lui va mourir à 59 ans, donc relativement
Louis XIV est terrible, la principauté d'Orange, il y avait force protestante.
Rien que dans notre histoire, il y a qu'à Orange, il y a des causes. Et alors l'outre-saint, cap donc, Abraham Mazel, qui est un peu mal vieille, 4 ans de mailles que Jean Cavalier, inflexible tout au long de sa vie, présent à l'expédition des ponts de Montvert, n'avait par là, car la débute de la guerre, à 25 ans, est-ce le premier camisard et fugel ou d'arrier. Son évasion de la tour de Constance à Aigues-Mortes en 1705 a marqué l'opinion publique. Et fin finale, mourira en 1710 à 33 ans.
Alors le dernier grand chef dont on peut parler, Camisard, c'est Jean-Nicolas, dit Joigny. C'est le plus vieux des chefs dont on a parlé. Lui, au début de la guerre, il a 32 ans. Il est paysan, il a servi dans l'armée royale et de retour dans ses veines, il participe à l'assassinat de l'abbé de Chéla, l'assassinat qui avait déclenché la guerre des Camisards, dont on a parlé tout à fait au début. Et là, il va devenir chef Camisard dans le secteur du mont Lozère. Et c'est vrai qu'il va se livrer à de nombreux coups d'éclat. Il sera battu en 1711 dans des conditions un peu obscures, près de Genoillac.
Après 1710, la désobéissance pacifique des protestants se généralise pour Huachapau. Les pasteurs sont roués et pendus ou emprisonnés. De 1715 à 1765, c'est pour donc comptabiliser 40 ou une quarantaine d'hommes emprisonnés pour la majeure part au fort des Brégoux, au large d'Agde. Le nombre de femmes est moins important. C'est-à-dire qu'il y a une centaine à peu près dans la tour de Constance, qui est quelques-unes en son nénou à Méel. À quelle révolte du Camisard a duré 12 ans sous la main, per sa phase maille active, et a marqué l'histoire de Cévennes et de son peuple, qui resteront terre et hommes des résistances. Thank you.
va qui donc à quelle émission des camisards et c'est une histoire qui ne nous est pas souvent fait contada, hein. La connaissais pas quelle histoire, mais c'est véritablement une histoire terrible, hein, de rey Louis XIV surtout, hein, qui nous a
trahis. Bah, c'est une guerre de religion où Henri IV avait
qui, hein,
avait libéré les choses et puis
les gens sont persécutés par ses opinions religieuses, mais il y a des temps d'accord.
Et la musique que vous avez passée, est la musique d'un groupe qui se sonne Une Anche Passe, qui est un groupe qui sonne du côté de Nîmes, crazy. Et donc, pour les deux musiques, avec des anches, hein, et qui avaient écouté tout du long de cette émission. Va qui est donc l'émission de l'association Ben Léo, à ce même par là.
Maïde Kasdi.